MDM. On n'a pas inventé la radio, on l'a juste améliorée. MDM.
Je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. Je chante, je vais de faire mon château. Je chante pour du pain, je chante pour de l'eau. Je couche la nuit sur l'herbe des bois. Les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, j'ai tout et j'ai rien. Je chante sur mon chemin. Les elfes, divinités de la nuit, les elfes couchent dans mon lit. La lune se profile à pas de loup dans le bois pour danser avec nous. Je sonne chez la comtesse aujourd'hui. Personne, elle est partie. Elle n'a laissé qu'un plat de riz pour moi, me dit un laquais chinois. Je chante, mais la faim qui me poursuit tourmente mon appétit. Je tombe soudain au creux d'un sentier, je défaille en tombant et je meurs à moitié.
Sacrilège, je vais parler par-dessus Charles Trenet qui chante, mais je ne voudrais pas trop empiéter sur le temps puisqu'il nous reste quand même notre cerise sur le gâteau de ce deuxième numéro de Margot Guette. Elle se nomme Audrey Lacroix. Elle est avocate au barreau de Mont-de-Marsan où elle s'est installée en 2008 après avoir prêté serment près de la cour d'appel de Bordeaux en 2007. Le 8 septembre dernier s'ouvrait le procès des attentats du 13 novembre. Elle y défend l'une des victimes, un Landais présent au Bataclan ce soir-là, et elle nous raconte.
J'ai envie de poser une théorie et puis tu la confirmeras ou tu la réfuteras. Mais j'imagine qu'on n'est pas avocat ou avocate par hasard, que c'est plutôt une vocation, ce métier.
Ah, question piège. Je vais la réfuter parce qu'à la base, c'était vraiment pas une vocation. Parce que j'ai passé un bac scientifique. Alors peut-être que finalement, en réfléchissant, on se dit qu'en faisant des maths, on adore résoudre les équations et les problématiques et que finalement, ça rejoint au droit où on a toujours une problématique juridique à appréhender, à résoudre. Est-ce qu'il y a un lien? J'en suis pas persuadée. Non, pas au départ une vocation, un bac S avec une envie de faire plein de choses, être prof de maths, prof de sport et faire du journalisme. Et donc, vu que je veux faire du journalisme, je me dis, je vais tenter Sciences Po. Et pour préparer Sciences Po, après l'avoir raté une première fois, être sur liste d'attente à Toulouse, je m'inscris à la fac de droit. Et puis on arrive au bout du cursus. Le journalisme, adieu, ça fait plus finalement partie de mes projets, de mes envies. Et puis il reste le notariat, non. La magistrature, non plus. Et puis l'avocature, je m'y lance parce que... Alors j'avais pas cette vocation, mais au final je me dis que peut-être... J'ai un problème avec l'arbitraire, donc ça doit avoir un lien avec cette envie d'avoir tenté l'avocature que j'ai obtenue. J'ai fait l'école d'avocat à Bordeaux, j'ai prêté serment à Bordeaux et je suis revenue sur Mont-de-Marsan.
Il y a d'autres choses qui se font donc un petit peu plus par hasard, donc qui sont pas forcément calculées comme finalement ce métier dans lequel tu es aujourd'hui. C'est le choix et l'arrivée de clients et d'affaires, notamment celle dans laquelle tu vas être impliqué pendant le procès dans lequel tu vas être impliqué pendant de longs mois, celui des attentats du 13 novembre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est fait, comment tu as atterri dans ce procès qui aurait dû être finalement très parisien?
Ouais, c'est vrai, c'est un procès qui reste quand même très parisien. Un concours de circonstances, c'est que mon client aujourd'hui, qui est sur les rangs des parties civiles, se retrouve dans cette fosse du Bataclan le 13 novembre 2015. Et il se trouve que nous avons une amie en commun. 2016, c'est la chute et la fuite en avant pour ce dernier sur Paris. Il fait le choix de revenir sur le territoire landais, à Jaune, pour être précise. Et il est plus ou moins quand même harcelé par les associations de victimes. Il veut pas prendre cet espace de parole avec eux. Ses amis l'aident, et notamment notre ami en commun l'aide beaucoup. Et sur le processus judiciaire, sur toutes les questions d'indemnisation, et pour commencer à se constituer partie civile dans le dossier d'instruction, elle fait appel à moi parce qu'au final, je suis la seule avocate qu'elle connaît sur le territoire landais, donc elle fait le choix de la proximité pour lui.
Et à ce moment-là, un procès d'une telle ampleur, une affaire d'une telle ampleur, toi, qu'est-ce que tu te dis? Parce que c'est à la fois historique et monstrueux comme procès.
Je me dis plein de choses. Je me dis, mon Dieu, c'est affreux. Parce que je me souviens moi aussi ce que je faisais ce soir-là. Je connais les répercussions, le nombre de morts. Je me dis, première chose, est-ce que tu vas être à la hauteur pour l'assister? Est-ce que finalement tu vas pouvoir être digne pour l'accompagner dans ce procès-là? Est-ce que ça ne va pas être trop compliqué émotionnellement? Je me dis tout ça, puis je me dis quand même que c'est un procès historique, que c'est un procès hors norme, que c'est au niveau culture générale une plus-value considérable et que c'est quelque chose dont j'ai envie de, en plus de toucher du doigt, notamment sur les mécanismes religieux. Donc au final, j'hésite pas tant que ça, tout se mélange et puis je fonce.
Je sais que tu as essayé de chercher tout un tas de livres. Je t'ai entendu un soir à Libre et Caractère chercher des livres sur le terrorisme. Je me suis dit, oula, qu'est-ce qu'elle prépare? Un procès, en fait.
C'est ça.
Ça se prépare aussi comme ça.
Ça se prépare aussi comme ça parce que il y a des mécanismes qui rentrent en compte sur les parcours des combattants syriens, sur le parcours de ces jeunes. Et puis donc, j'ai cherché à me documenter. Et je me suis dit qu'Anthony, chez Caractère, pouvait vraiment m'aider. Donc c'est en cours, je lui demande quelques listes, on cherche sur le terrorisme, sur la religion, je lui ai déjà pris le Coran, je l'ai lu, on cherche, on essaie de trouver des éléments qui puissent m'aider à toucher du doigt certains mécanismes, du moins chez les accusés. Je cherche pas de la documentation sur le traumatisme des victimes, parce que ça j'estime que avec les expertises médicales, on a suffisamment d'éléments, mais pour le reste, oui, la librairie, ça reste quand même le fond documentaire, à mon avis, le plus adéquat pour ce procès-là.
Et donc, tu vas te rajouter de la lecture parce que il y en avait pas assez avec le nombre de pièces hallucinantes de ce procès.
Alors, il y en avait largement assez, il y en a même beaucoup trop. Je vais pas mentir, on dit souvent quand on lit les procès, les dossiers en intégralité, ça, il n'y a pas de difficulté. Mais lorsque vous avez 1 million de pages, je vais être complètement honnête, j'ai pas lu 1 million de pages. Il y a eu un travail de séquençage, un travail qui a été fait de manière collaborative avec tous les avocats. Donc, j'ai pas lu le dossier dans son intégralité, j'ai lu les choses essentielles, mais par contre, on cherche à approfondir ce que l'on peut trouver comme élément dans le dossier. Moi, c'est la question essentielle aujourd'hui qui reste, c'est comment ces jeunes-là peuvent un jour, un matin, se réveiller et se dire je vais mettre un gilet explosif et aller me faire sauter et tuer finalement des personnes de la même génération. Donc, je me documente sur ces choses-là. On s'en rajoute et je pense qu'on va en ajouter jusqu'à la fin du procès.
Le séquençage, justement, c'est parce que vous êtes divisé en groupes d'avocats en fonction des territoires, c'est ça?
C'est ça. On a été divisé par région. Plusieurs avocats par région. Chaque groupe a été destinataire soit d'un thème qui pouvait être transversal, soit vraiment d'un accusé, travailler sur certains faits. Alors, il y en a qui se sont attachés au Stade de France, d'autres sur les terrasses, d'autres ont travaillé sur la fosse du Bataclan, d'autres travaillé sur les otages. Il y a les constatations techniques, enfin, il y a pas mal de choses. Il y a tout ce qui est personnalité, il y a les revenants, il y a les témoins, il y a les citations des témoins, il y a les thèmes encore plus philosophique. Donc on s'est partagé le travail de la sorte avec... Alors c'est Paris qui dirige. Je ne vais pas dire que c'est la province qui exécute, c'est pas du tout le sens de mon propos. Mais en tout cas, je tire mon chapeau quand même aux avocats qui ont géré ce travail-là, parce qu'on ne veut pas commettre la même erreur. Je pense que ce qui a pu se passer au dossier de Charlie Hebdo, parce qu'il y a eu des réquisitoires, des avocats un peu redondants, assez pénibles, je suppose, pour la cour d'assises, et même pour les victimes, même pour les avocats de la défense. Donc on s'est partagé le travail afin d'éviter cet écueil.
Alors tu expliquais là, que quand ton ami et votre ami en commun t'a appelé, tu t'es demandé si t'allais être à la hauteur. Moi, je me demande aussi si c'est possible de aussi se protéger, d'avoir la réflexion aussi, de se demander si on va être capable de tenir le choc plus que d'être à la hauteur. Karen Bertaille, du coup, qui est journaliste pour Sud-Ouest et qui intervient aussi, enfin qui suit des procès qui peuvent être super intenses aussi, elle m'expliquait que en écrivant, elle se décharge un peu toi, enfin, peut-être que tu vas m'apprendre que tu écris aussi, je ne sais pas, mais est-ce que tu as des mécanismes peut-être pour prendre du recul et pas charger trop émotionnellement ?
On fera certainement le bilan à la fin du procès, mais oui, d'ores et déjà, j'ai vraiment la tentation de m'identifier à mon client, donc c'est un gros problème. Donc je prends de moins en moins de recul, et plus les journées de procès avancent, plus je m'enfonce. Donc pour me décharger, c'est très simple. Alors moi, je n'écris pas comme Karen Bertaille. Par contre, j'ai des temps, je m'accorde quelques temps de liberté. Bon, déjà, j'ai ma fille, donc je prends du recul en profitant du temps avec ma fille. Puisque je suis en résidence, j'ai ma fille en résidence alternée, donc j'ai également des week-ends de libre. Bah, je me décharge un peu sur mon conjoint, je dis pas que c'est facile. Je chante beaucoup. C'est une thérapie de chanter, très très mal, hein, je le conçois. Je chante beaucoup, je lis, je bois un peu trop de vin rouge. Je profite de mes amis et en fait, au final, je crois que c'est ça aussi l'essentiel, c'est de profiter de tous ces petits moments de liberté. Finalement, je les réinvestis et ça me permet de me décharger. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que je vais y arriver. Je pense qu'à la fin, il faudra une aide psychologique. Hein, je vais être honnête. Enfin, on verra ça dans quelques mois. Mais au moins, j'investis ces moments-là pour prendre un peu de recul.
Donc là, c'est ce que tu as réussi à mettre en place sur ces premières semaines de procès. Et c'est aussi comme ça que tu imagines que ton temps va s'organiser sur les mois à venir.
Alors tant que ça fonctionne, je vais continuer comme ça. Mais il ne faudrait pas non plus que je tombe dans quelques excès et que je me fatigue encore plus. D'autant plus quand même que j'ai aussi mon cabinet et j'ai tous les autres dossiers qui sont aussi importants à avancer. Donc bon, pour l'instant, on continue comme ça. Puis on verra, et s'il faut, peut-être qu'il faudra, et certainement qu'il faudra plus de temps après, je prendrai quelques jours de vacances, quelques semaines.
J'ai une dernière question, Audrey. Est-ce que tu arrives à suivre, bon ça vient juste de débuter, mais les états généraux de la justice, est-ce que tu vas suivre, est-ce que tu as des attentes pour ces états généraux ?
Non, c'est une usine à gaz. Franchement, alors je vais pas aller sur le débat politique, ça ne m'intéresse pas. Parce que en plus on est en période préélectorale, donc bon, je me fais très peu. Enfin, franchement, j'attends rien de ces états généraux. Je crois que d'abord on ferait mieux de faire un constat sur ce qu'est l'état de la justice aujourd'hui, le manque de moyens qui est criant. On nous pond des réformes tout le temps. Enfin, ça devient illisible. C'est plus la simplification du droit. On s'en éloigne de plus en plus. Donc les états généraux du droit. Non, c'est de la fumisterie pour moi. Je suis désolée de le dire, mais je le dis comme je pense.
J'aime Radio MDM.
Moi.
Et voilà, je savais bien. Tout le monde aime Radio MDM.